Et bonjour, vous êtes sur le réseau FM+. Ce réseau réunit deux radios, Alliance Plus à Nîmes sur le 103.1 et FM+ à Montpellier sur le 91 de la bande FM. Tous les vendredis à 10h10, retrouvez Scénorama, émission dédiée à l'actualité culturelle avec rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Aujourd'hui, j'accueille Frédérique Musolini, directrice du théâtre Jacques Coeur à Latte. Elle est accompagnée de Claudine Martel, chargée des relations publiques de la billetterie et chauffeur aujourd'hui. Chauffeur, taxi, taxi.
Tout à fait.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
En seconde partie, eh bien, c'est Tony Cafiero qui nous présentera sa création « Yvan et les chiens », une histoire vraie et bouleversante, interprétée par Louis Belair, à voir jeudi 29 au théâtre Jacques Coeur dans le cadre d'Imprudence. Frédérique Musolini.
Bonjour Annick.
Bonjour. Alors Imprudence, c'est la troisième édition, si je ne me trompe.
Troisième édition, n'a pas beaucoup changé. On est resté sur les bases du départ.
Quand ça marche, on garde.
Voilà, on ne change pas, tout ce qui fonctionne. Ça reste un temps fort de la saison. D'ailleurs, même nous, dans l'équipe, on est très, très excités à l'arrivée de ce rendez-vous qui, évidemment, nous donne beaucoup de travail puisqu'il s'agit de 6 spectacles consécutifs en une semaine de temps, donc dans 2 salles différentes. Par le passé, on a même eu fait 3 salles différentes. Donc c'est une mobilisation générale de la part des artistes que l'on accueille, qui sont essentiellement des compagnies de la région. Ça, c'est un choix délibéré depuis le début pour donner une visibilité à un théâtre plus singulier, plus engagé, parfois plus offensif, plus audacieux. Et c'est un rendez-vous que le public a adopté,
oui,
au fil du temps.
Le public, mais aussi les comédiens qui se déplacent. C'est l'occasion vraiment, voilà, de voir le travail des uns et des autres. Alors, bon, vous parliez de compagnie régionale, et ça, c'est vraiment tout à votre honneur. Mais là, cette année, il y a quand même une compagnie qui n'est pas de chez nous.
Il y a une compagnie nationale, c'est déjà arrivé d'ailleurs par le passé, qu'il y en ait une, qui sont l'exception,
voilà,
qui confirme la règle.
Sectaire.
Pas que ce soit forcément une locomotive, au sens où on pourrait l'entendre, mais qui vient aussi, j'allais dire, conforter la qualité du travail de nos artistes de la région. Parce que je n'ai pas souhaité que ça soit non plus une case localo-locale qui peut être aussi entendue comme quelque chose qui serait moindre en termes de qualité, de notoriété ou de proposition. Donc ça m'a semblé important d'accueillir, alors non seulement c'est une compagnie nationale, mais c'est une compagnie même internationale, puisque c'est la compagnie DOA2 dont on parlera tout à l'heure,
oui, tout à fait.
Qui vient dans ce cadre-là. Je pense que ça contribue à la qualité générale de la proposition de ces 6 spectacles.
Mmh. Et donc voilà, avec quand même des esthétiques différentes. Hein.
Imprudence va partout. Au niveau des esthétiques, des propos, c'est absolument ouvert. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait un geste artistique de la part du metteur en scène. Je suis vraiment à la recherche d'un geste. Alors les gestes artistiques forts, et d'ailleurs les plus audacieux, sont pas toujours les plus visibles. Justement, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sobriété, parfois même bien au contraire. Mais ce qui est important, c'est que ce soit un geste. Donc Imprudence, c'est quand même un rendez-vous des metteurs en scène. Mmh. On pourrait peut-être le qualifier de plus en plus comme ça.
Mmh. Alors à l'origine, pourquoi vous aviez choisi ce terme Imprudence ?
Alors, en tant que théâtre de ville, puisque donc le théâtre de Latte est un théâtre de ville, on a acquis un public au fil du temps, à qui on a, on va dire, inculqué, c'est un peu prétentieux, mais qu'on a habitué à aller voir des textes, des grands textes du répertoire. Ça, c'était de tradition à Latte de longue date, avant même que j'en sois la directrice. Et qui a connu petit à petit, depuis 8 ans que je dirige ce lieu, le théâtre contemporain. Mais à l'intérieur de ça, on a souhaité indiquer la porte d'entrée. Moi, je crois que le théâtre doit aller au-devant du public, dans tous les sens du terme, même sur la communication et la façon de nommer le monde et nommer les choses, ça me semble fondamental. Sinon, on fait du théâtre entre soi, du théâtre avec des gens de théâtre, pour des gens de théâtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le public se sente concerné. Et le public qui n'est pas particulièrement un spécialiste de l'objet théâtral a parfois un peu du mal à se repérer. Donc il aurait tendance à aller sur des nationaux, sur des spectacles avec des personnalités qui ont été médiatiques et beaucoup plus de difficultés à aller risquer de faire connaissance. Et finalement, ce mot imprudence qui pouvait sembler être comme un panneau d'avertissement, attention, si vous venez sur ces rendez-vous-là, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Vous pourriez être bousculé, évidemment, mais c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller s'encanailler, le public a envie d'aller découvrir, et prêt d'ailleurs à être éventuellement bousculé. Alors pas trop, hein, parce qu'on est allé parfois un peu plus loin que là même on va aller cette année. Tout ça, ça a ses limites, évidemment, mais c'est un jeu, en fait.
Alors moi, je l'aurais bien appelé impudence.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas aussi. Et c'est quand même, voilà, je trouve que c'est quand même une belle prise de risque de votre part, quoi.
Oui, pour un théâtre de ville. Bravo. C'est vrai que la municipalité nous suit, enfin, suit mes choix sur ce rendez-vous qui, effectivement, se situe plus parfois à l'endroit d'un centre dramatique national. D'ailleurs, le nôtre maintenant est en totale imprudence toute l'année et bien au-delà de ça, donc c'est parfait. Mais oui, les missions d'un théâtre de ville sont censées être des propositions d'un théâtre très large, fédérateur, grand public, accessible à tous. Alors ça l'est, pour le coup. Ça l'est parce qu'accessible à tous ne veut pas dire piètre qualité, ne veut pas dire facilité, etc., etc. Moi, j'ai une grande confiance en la capacité du public à recevoir les œuvres, à les entendre et à les apprécier.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez précisé, ce sont que des textes contemporains.
Que des textes contemporains, bien sûr.
Oui, oui, oui. Alors, on va arriver, on va faire un peu dans l'ordre chronologique, hein, avec donc le premier spectacle de Tony Cafiero. Vous lui avez donné une carte blanche.
Carte blanche, Tony Cafiero, qui est metteur en scène de la compagnie Faux Magnifico, qui était un des pionniers des compagnies régionales. Alors, pour lui, régional, vous allez le comprendre tout à l'heure pour les auditeurs qui nous écoutent, vous allez comprendre que le monde est beaucoup plus vaste que ça. Mais la compagnie Faux Magnifico est implantée à Montpellier, donc de fait qualifiée en tant que telle. Mais évidemment, il va l'expliquer mieux que moi, il travaille évidemment à l'international. Mais en tout cas, ça a été le pionnier dans les compagnies installées à Montpellier à venir jouer au Théâtre de Latte il y a 8 ans de ça. Non seulement le premier, mais le seul. Donc on a eu Jules César, on a eu des textes de Keane, tu peux même m'en citer d'autres que j'oublie sans doute. Et puis, bon, on s'était un peu dit au revoir, parce qu'il faut que ça tourne dans un théâtre public. Compliqué, avec toutes les demandes que l'on a de pouvoir rester comme ça de fidélité, mais il y a quand même eu 4 ans de résidence. Et puis là, on se retrouve sur une carte blanche, en fait. Carte blanche à Tony Cafiero, qu'il a transformé en résidence, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un peu spécifique, c'est un temps imparti plus court que la résidence. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un geste plus rapide. Alors il se trouve que M. Cafiero ayant un tel savoir-faire, je pense pas que ça lui ait posé de problème, mais ça bouscule un petit peu ses habitudes. Hein. Je crois que quand même on l'a chiffonné. Lui aussi, imprudence, ça l'a un petit peu dérangé, agacé, mais il va l'expliquer mieux que moi.
Voilà, Tony nous dira tout pour cette seconde partie d'émission, donc avec sa création Yvan et les chiens. Alors le deuxième spectacle, c'est, vous avez commencé à en parler, c'est cette fameuse compagnie dos à deux. Donc, ce sont au départ des Brésiliens, c'est ça, basés en France. Ils ont fait une première création de dos à deux, c'était en 98, alors, c'est bien ça.
On les a accueillis d'ailleurs avec leur spectacle Saudade, qui est un spectacle qui a quand même beaucoup marqué le public du théâtre de Latte. Je crois que c'est la seule date qu'ils aient fait en région, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est vraiment une compagnie de niveau international, qui a une spécificité qui est sur le théâtre gestuel. Alors tout le monde pense au mime, tout le monde pense à de la danse, c'est vraiment du théâtre gestuel, c'est vraiment le corps qui parle, bien au-delà d'un danseur, bien au-delà d'un mime, bien au-delà d'un clown éventuellement ou d'un acrobate. C'est un peu tout ça à la fois et rien de tout ça finalement. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de texte. Alors, et ça, c'est une imprudence pour nous.
Et oui, faut oser. Et puisqu'il n'y a pas de texte et que nous sommes en radio, et bien nous allons écouter un extrait musical de ce spectacle. Un extrait donc de Do à deux à découvrir au théâtre Jacques Coeur. Donc, il s'agit de théâtre visuel, Frédéric.
Oui, je vais revenir sur l'extrait parce qu'évidemment, diffuser en radio du théâtre gestuel et un spectacle qui n'a pas un mot, puisque le mot c'est le corps qui l'exprime, évidemment que c'est peut-être pas le plus parlant, c'est le cas de le dire. Mais c'était important pour moi d'apporter cette bande musicale parce qu'on voit au travers le choix des musiques qu'il nous raconte absolument tout. C'est en fait un spectacle qui s'appuie sur un texte de Samuel Beckett, En attendant Godot. Donc ce sont ces deux personnages qui attendent Godot, et on le sait bien, il ne viendra jamais. Et donc c'est toute cette attente qui nous est proposée, qui nous est jouée, et on le comprend quand même quand on entend ces musiques, où bien évidemment ils se passionnent l'un pour l'autre, ils se disputent, ils s'ennuient aussi parfois, il y a du lyrisme, il y a de la poésie, c'est extrêmement drôle. Pour le coup, c'est un spectacle à voir, mais tout le monde peut le voir. On l'a très peu précisé, mais le fameux « avoir en famille », franchement, c'est un dimanche après-midi à 17h, s'il y a un spectacle qui peut être vu en famille, qui est d'une grande qualité, qui est quand même, c'est son passage unique dans la région, c'est celui-là. Et on traverse absolument toutes les émotions. On l'entend un peu avec les musiques qu'on vient d'écouter, mais surtout, on le voit en direct au plateau. Et il y a une nostalgie. Je reviens sur leur premier spectacle qui était Saudade, qui signifie ça. Il y a cette nostalgie, cette poésie. C'est très très beau, très
donc,
beau.
Immanquable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme je disais, il a été créé en 98, et là il a été recréé, c'est pas pour rien donc, que ça s'appelle Do à deux, deuxième acte. En fait c'est une espèce de transmission, c'est ça.
Ils sont un peu victimes de leur succès, Arthur Ribeiro et son collègue Curti, André Curti,
oui.
Sont un peu victimes de leur succès, parce que ce sont les deux fondateurs de la compagnie Do à deux, et aussi les deux interprètes. Et les tournées sont tellement immenses et importantes, en plus ils commencent maintenant à avoir plusieurs pièces à leur répertoire, qu'ils ont vite compris qu'il fallait un peu effectivement transmettre. Ce qui n'était pas une mince affaire, étant donné ce qu'ils proposent, et la particularité de leurs gestes, justement, qu'appartiennent ni à la danse, ni au clown, encore une fois, ni... qui est à la fois tout ça et rien de tout ça. Donc là, ils ont trouvé quand même deux interprètes, un petit peu plus jeunes, extrêmement solides, extrêmement charismatiques, qui font cette proposition à l'identique.
Parfait. Donc un spectacle qui a été joué plus de 300 fois en Europe et au Brésil, qui est passé au Festival d'Avignon en 2013, et donc que vous pourrez voir le dimanche 30... le dimanche 1er février, voilà, à 17h au théâtre Jacques Coeur. Un spectacle à voir et à revoir. Je pense à Un obus dans le cœur, créé en 2013 au théâtre des 13 vents. Un texte vraiment coup de poing de Wadji Mouawat. un magnifique auteur, mais aussi acteur et metteur en scène né au Liban, n'est-ce pas, Frédéric?
C'est un coup de cœur, non seulement le spectacle, mais l'interprète, cette compagnie toute récente et toute jeune, émergente, comme on dirait, dans la région, qui est incarnée par son interprète, qui est aussi le metteur en scène, qui s'appelle Guillaume Sévrac-Schmidt, qui est un jeune garçon de la région, hein, originaire de Castelnaudary, tout simplement, monté faire ses études théâtrales à Paris au conservatoire. Là, il rencontre Wajdi Mouawad, qui à ce moment-là est découvert par le milieu théâtral et culturel, et notamment évidemment Avignon dans le Vin. Et Wajdi Mouawad, remarque Guillaume Sévrac Schmitt dans le lot des étudiants présents. Il est également musicien, alors et il intervient. Guillaume Sévrac Schmitt joue comme interprète et musicien dans plusieurs spectacles de Wajdi Mouawad. Donc il y a une vraie rencontre entre les deux, ce qui sans doute explique le fait que ce spectacle est un vrai coup de cœur, et une vraie rencontre aussi et avec le public et les professionnels qui l'ont vu déjà la saison passée, assez nombreux, et les journalistes d'ailleurs, et la presse aussi visiblement. Alors évidemment, Wajdi Mouawad, c'est une prose immense. C'est un très 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 grand dramaturge qui rentrera dans l'histoire de l'écriture théâtrale. C'est quasiment sûr, sans être devin, je ne prétends rien, mais pour le coup, on a vraiment une écriture, on a vraiment une vraie plume, et qui en même temps est extrêmement contemporaine. Oui. Extrêmement contemporaine.
Alors, un obus dans le cœur parle notamment de la question de l'identité.
Alors, il s'agit d'un jeune garçon qui est appelé au chevet de sa mère. Ce jeune homme a 19 ans et sa mère qui est en fin de vie, à l'article de la mort. Et ce jeune garçon, quand il est appelé, il nous explique que depuis l'âge de 14 ans, il avait fugué, il était parti du domicile familial. Et on assiste à toute cette course qu'il rejoigne sa mère à l'hôpital afin de recueillir au moins son dernier souffle. Et là, il nous renvoie toute sa détresse, toute la haine contre la famille, la question identitaire, puisqu'il est libanais, les questions de transmission, filiale. C'est un acte d'amour extrêmement fort, mais assez violent aussi. Coup de poing, vous l'avez dit, et c'est le cas. Coup de poing est extrêmement poétique.
La peinture est aussi présente sur scène. Ça aussi, ce sont des moments très beaux et très forts. Il s'apaise dans l'art avec la peinture et évidemment la couleur rouge. Alors, on écoute un extrait sur le réseau FM+, un obus dans le cœur.
On ne sait jamais comment une histoire commence. Je veux dire que lorsqu'une histoire commence et que cette histoire vous arrive à vous, vous ne savez pas au moment où elle commence qu'elle commence. Puis lorsque finalement on réalise qu'on est embarqué dans une histoire, on ne sait pas comment tout ça va se terminer, personne ne peut savoir. C'est seulement à la fin, lorsque tout est consommé, qu'on ouvre les yeux et qu'on se dit « l'histoire est terminée, elle est terminée ». Et parce qu'elle est terminée, vous vous mettez à entendre le silence. Le grand silence qui a failli vous noyer, c'est comme ça. Alors, pour conjurer le silence, on tente de trouver les mots pour raconter. Je m'appelle Abdel Waham, comme le chanteur. Mais tout le monde m'appelle Waham.
Comment tout ça a commencé ? Je sais pas. Je peux pas dire que je l'ai entendu sonner, ça non, je peux pas dire. Je peux juste dire que je me suis retrouvé assis dans mon lit à me demander si j'avais rêvé, c'était possible. Il faisait nuit, il faisait froid, est-ce que j'ai rêvé ? Puis je l'ai entendu sonner comme une réponse. Tu n'as pas rêvé, mais ça aurait pu. Dehors, c'était la tempête et toutes les machines de déneigement qui faisaient leur raffut. Un vrai boucan, j'aurais pu rêver. Pourtant, je me suis retrouvé le combiné à la main. J'ai dit allô d'une voix normale. On a dit Wahab, j'ai dit oui. On m'a dit viens. Et j'ai raccroché. J'ai hurlé. Au moins, il y a ça. Quand notre mère est en train de mourir, ça nous donne certains droits.
Oui, donc sur le réseau FM+, un extrait de Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad.
Wajdi Mouawad, c'est vrai qu'il fait un peu d'entraînement. C'est un spectacle très physique, hein, aussi,
ah oui,
d'ailleurs.
Tout à fait.
La prose est lyrique, importante, poétique et belle, mais c'est un monologue. Hein, c'est un monologue, il est seul en scène, Guillaume Savrac-Schmidt, et c'est extrêmement physique, puisqu'il court au chevet de sa mère, et physiquement, il court aussi au plateau.
Donc à voir le mardi 3 février à 19h30. Alors nous allons hélas passer très vite sur Jeunesse sans Dieu de Horwath, hein, j'ai bien prononcé là cette fois, interprété par Nicolas Pichot.
Lui aussi, c'est...
Parce que ce spectacle, qui se joue quand même trois fois, est complet. Alors c'est un spectacle aussi magnifique que la presse ou des spectateurs ont quand même pu voir. Hein. Quelques mots. Hein,
je peux juste préciser que voilà, c'est un travail un peu novateur par rapport à ce que propose la compagnie habituellement. C'est un spectacle qu'il a joué sur scène et en même temps il m'avait dit qu'il l'avait joué dans des écoles, dans des salles de classe. Donc moi je lui ai fait une proposition dans le cadre d'Imprudence qui était de reconstituer une salle de classe dans le théâtre et que le public se retrouve en étant un élève. Donc il va en fait faire une proposition de cette version un peu nouvelle entre guillemets, qu'il jouera donc pour la première fois, à la fois en étant dans un espace théâtre et de reconstituer la salle de classe.
D'accord.
C'est pour ça que c'est aussi complet, parce que du coup c'est une jauge aussi
voilà,
assez
limitée. Voilà, c'est un petit théâtre, Jacques. Oui. Alors bon voilà, c'est une création 2009. Et vraiment, bon, écoutez, un très très beau spectacle, et peut-être allez-y quand même, et puis sur liste d'attente.
Quand c'est complet, c'est jamais complet, je ne sais pas, on verra tout à l'heure avec Madame Martel ce qu'elle en pense.
Voilà, puisque si vous parlez de Madame Martel, notre chère Claudine, nous allons, avant de passer au dernier spectacle, parler des informations pratiques. Au moins, ça sera dit, et cette année, il y a quand même une nouveauté, vous avez instauré un pass pour cette Imprudence.
Tout à fait. Donc, nous avons instauré cette année un pass Imprudence. Il suffit de prendre les 5 spectacles que nous proposons et pas 6 comme nous avons fait l'erreur de le dire au tantôt début d'émission. Je ne vais pas rentrer en détail au niveau des tarifs, ça serait un petit peu compliqué. Moi, je vous propose à tous les auditeurs de rentrer en contact en m'appelant au 04 99 52 95 00. Sachez que je suis à votre disposition du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, hormis le vendredi où nous avons la chance de terminer une heure plus tôt, c'est-à-dire à 16h30. Posez-moi toutes les questions. Chose que je voudrais aussi rappeler au niveau d'Imprudence, sur inscription, le public a la possibilité de se restaurer à l'issue des représentations.
Quelle chance!
Avec les comédiens et metteurs en scène.
Waouh!
Tout ça sur inscription quand nous allons limiter au niveau des places. Donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition, appelez-moi.
Vous êtes magnifique, Claudine.
Merci, Claudine. Je précise que le pass, il est à 55€ pour les 5 spectacles. Ça mérite d'être dit dans la mesure où il y a vraiment un effort qui a été fait par la municipalité sur cette question de tarifs, puisqu'on s'est rendu compte que les gens disaient un peu c'est notre petit festival d'Avignon latois, toute proportion gardée. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent voir l'intégralité des spectacles, bien souvent. Il en manque un dont on n'a pas parlé.
Voilà. C'est l'art ou n'est pas la science, ou l'art et la science. Hein. Deux questions, une création collective de Prime Sautier Théâtre. Et donc, à partir de cette double interrogation, la compagnie invite le spectateur à observer les rapprochements qui se produisent aujourd'hui entre les domaines artistiques et scientifiques. C'est bien ça, Frédéric ?
Là, pour être un peu bref, j'ai envie de vous dire... Venez à ce spectacle, venez vous inviter à la table du débat qui a lieu sur scène entre cette équipe de chercheurs, scientifiques, artistes qui discutent autour d'une table de ping-pong et qui débattent de façon passionnée, extrêmement spontanée. C'est vraiment un travail qui est sur la recherche. C'est une équipe qui sort de l'université, du théâtre de l'université, depuis quelques années maintenant, 2003. Hein. Donc c'est une compagnie professionnelle, Prime Sautier Théâtre, que beaucoup connaissent. Mais là, on vous invite à la table, autour de la table de ping-pong, à les entendre débattre autour du parallèle entre l'art et la science, et c'est pas à piquer des hannetons, comme on dit.
Voilà, c'est du théâtre documentaire. Le spectacle dure 1h40, et donc c'est le jeudi 5 février, à 21h, et toujours au théâtre du Jacques-Cœur. Claudine, Frédéric, merci. On se retrouve très très vite après notre petite musique générique pour la seconde partie de cette émission en compagnie de Tony Cafiero. sur le réseau FM+, Scénorama, tous les vendredis à 10h10, rediffusion le samedi à 12h10 et écoutable en podcast sur fmplus.org. Tony Cafiero.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes actuellement en pleine répétition. Un grand merci d'avoir pris le temps de vous déplacer jusqu'à nos studios. Alors, on vous voit, Tony, hélas trop peu en France. Mais on peut dire qu'il y a un vrai compagnonnage, comme Frédéric en parlait en début d'émission, avec le théâtre Jacques Coeur. Et on peut à peu près voir une ou deux de vos créations une fois par an, c'est ça, à peu près depuis... depuis 8-10 ans, oui. Hein, une fois par an, on peut voir une ou deux créations. Sinon, vous êtes tout le temps en vadrouille à l'étranger, Tony.
Oui, je travaille souvent à l'étranger, presque la totalité de l'année, quoi, en fait.
Oui.
Soit en donnant des cours, soit en faisant des mises en scène, théâtre ou opéra.
Mmh. Alors bon, pour ce nouveau spectacle, vous nous donnez à voir et à entendre une histoire vraie. Un récit historique écrit par une auteure anglaise, Atti Naylor,
ouais.
Je prononce bien. Alors, vous connaissiez cet auteur avant de découvrir le texte Yvan le Chien ?
Non. Tout ça est né il y a un an, quand j'étais au conservatoire à Saint-Pétersbourg, donc j'ai enseigné. Et une soirée, en parlant avec les élèves, cet élève me dit qu'il était une des fils de la perestroïka. Je comprenais pas le sens de cette explication. Elle lui m'a dit que faisait partie de tous ces enfants qui étaient nés pendant la perestroïka, mais qu'ils étaient pratiquement tout de suite abandonnés. Et à partir de là, il a commencé à me raconter un peu des histoires, et des histoires qui m'ont particulièrement frappé. Genre, par exemple, en 92 et 93, 80 000 enfants étaient abandonnés en toute Russie.
Oui, c'est incroyable.
Et par exemple à Moscou, il y avait 110 orphelinats, et pratiquement dans une année et demie, ils sont devenus 440. Donc ça donne l'idée de combien d'enfants ont été abandonnés dans les rues, complètement abandonnés dans les rues et dans des villes. Donc c'est pas l'histoire de l'enfant sauvage.
Oui,
là.
Et là c'était hier. Hein. Enfin, je veux dire, c'est
oui.
Incroyable.
Oui. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été beaucoup ont été morts, beaucoup ont été élevés par des personnes assez bizarres, beaucoup ont été vendus évidemment, d'autres évidemment tués pour des trafics curieuses. Et donc c'est à partir de là que j'ai au pur hasard j'ai connu cette nouvelle qu'avait écrit Atti Naylor. Et donc raconter de cette histoire de Ivan Mouchoukov, c'est une enfant qui fait partie de cette période, qui a été trouvée par la police à l'âge de 6 ans, mais il savait déjà que pendant 2 ans, il vivait avec une meute de chiens, ce qui veut dire qu'à partir de 4 ans, entre 4 et 6, il a vécu dans la ville de Moscou en cachette, mais élevé par des chiens, au point qu'il y a eu des sociologues qui se sont déplacés pour essayer de le trouver et voir qu'est-ce que ça a donné, ça.
Alors, pour en revenir à cette auteure, donc, elle a écrit ce texte qui a été au départ un texte radiophonique.
Oui.
Hein, qui ensuite, donc, elle l'a adapté pour le mettre en scène.
Oui.
Et ce texte lui a valu un prix.
Oui. C'est un prix important qui a été fait au Festival d'Édimbourg à l'époque. Mais je sais qu'il y a eu d'autres histoires qui ont été à partir de cette prix qui ont été construites parce que tout le monde a connu cette histoire qui est apparue dans les journaux en même temps. Donc il y a une série de textes qui ont été écrits sur ces sujets-là qu'on en peut oublier, évidemment.
Mmh. Et là, Yvan et le chien est écrit en 2010. Alors, on va écouter un premier extrait musical, parce que la musique est assez présente dans cette pièce, et nous développerons tout ça au
Bien
fur et à mesure.
Thank you.
Yvan et les chiens, donc à découvrir au théâtre Jacques Coeur, une mise en scène de Tony Cafiero. Bon, moi qui ai vu un petit filage hier, je trouve que cette musique reflète bien l'ambiance du texte. Qui a composé toutes vos musiques là, pour cette pièce ?
Les musiques sont composées par Johan Johansson, c'est un compositeur islandais qui travaille souvent même avec des opéras contemporains et qui, au pur hasard, j'avais connu il y a 3 ans et que je trouvais bien. Je trouve qu'il donne l'atmosphère exacte par rapport au travail et qui va être mélangé avec des sons. Il y a des compositions sonores qui ont été faites par Luc Souche, donc c'est un copain avec qui on travaille longtemps ensemble. Donc, va être un peu mélangé. Ça va être des compositions musicales avec des sons qui vont se greffer dessus.
Alors, Tony, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter et de mettre en scène ce texte ?
J'ai trouvé que ce texte, quand même, a cette particularité. L'histoire de l'enfant sauvage, il y en a pas mal, da Kipling à Tarzan, Faulkner, Jadish, il y a plein d'auteurs israéliens même qui ont écrit ça. Mais tous avaient cette contraposition culture et nature. Donc non, et c'est un débat qui dure depuis longtemps dans notre société. Là, la petite et grande différence, c'est que d'un coup, ces enfants, la métaphore, si on peut dire, parce qu'on en parle, vu que c'est un spectacle, vu que c'est un fait d'art, c'est un geste d'art, c'est que ces enfants ont été abandonnés dans la société, donc dans nos villes. Et la cause de tout ça, c'est simplement la crise économique. Et donc, il y a un prix. Cette prix, il faut que quelqu'un le paye. Eh bien, c'est les enfants. Donc, indirectement, on est en train de dire que la crise économique est causée par nous, les adultes. C'est les enfants qui la payent directement. Et quand on parle d'enfants, on parle de futur. On parle de qui gérera notre pays, les futurs politiciens, artistes, journalistes, directeurs de théâtre. Et si c'est des enfants qui ont vécu ce genre d'expérience par rapport à leur passé, je trouve que ça peut être un grand interrogatif qui a été élevé avec ce geste fort d'être complètement abandonné par des causes d'économie, donc simplement d'argent.
Oui. Alors, la morale dans tout ça ?
Oh, je pense que c'est difficile de parler de morale dans tout ça, mais je pense que ça met en cause quand même notre capacité de réfléchir simplement au futur, sans rentrer dans un discours de mélodrame, ça veut dire les enfants, les adultes. Je pense que c'est pas ça forcément l'intérêt, surtout quand on fait du théâtre, c'est avoir un regard sur le futur. Et dans ce sens-là, c'est nier le futur, mais là, des signes qui nient le futur, il y en a pas mal. Là, il s'agit d'une conte, évidemment. Et ça peut être vu aussi dans une conte assez féerique dans ce sens-là. Mais derrière, il y a quelque chose de très important. Parce qu'il est, il est vrai. Et c'est pas parce qu'il est vrai que c'est important. C'est parce que ça nous donne l'idée que ces choses sont en train de passer encore au jour d'aujourd'hui. Oui. Même dans des pays pas si loin comme la Russie qu'on pourrait imaginer avec la neige, Tchekhov et Tchaïkovski, non, mais on peut le payer peut-être penser plutôt dans les pays en Afrique, là très récemment, le futur.
On écoute un extrait sur le réseau FM+.
C'est la petite brute, celle qui met la peur dans le regard des autres. Mais il ne me fait pas peur. Il s'approche. Je crois qu'il se rapproche. Tout près. Et là, il court vers moi pour me pousser. Mais j'aboie. Et tous mes chiens sont là. Ils l'encerclent. Ils sont très énervés contre lui d'avoir essayé de me faire mal. Et lui, il commence à pleurer. Il pleure et pleure encore. On s'en va. La petite brute bouge pas. Il reste sur le sol, roulé en boule. Je crois qu'il pleure encore.
Yvan et les chiens, un spectacle vraiment, vraiment à découvrir, donc mis en scène par Tony Cafiero. Tony, là, nous venons d'entendre la magnifique voix et nous verrons la magnifique présence de Louis Bayler, qui est accompagné d'un enfant.
Oui, oui, oui. Évidemment, le récit est fait par une enfant, mais j'ai trouvé qu'il allait falloir une distance, justement, peut-être même pour m'éloigner une idée de réalité, non? Ça serait très, très, regard très voyeur avoir simplement une enfant, mais avoir une distance par rapport à ça. Et donc, on a dû reconstruire un peu le parcours, et je pensais que c'était intéressant, que c'était le point de vue d'une adulte qui venait raconter ça, donc c'est Yvan qui revient. Parce qu'on sait qu'il revient après avoir fait 5 ou 6 ans l'armée. Donc c'est le soldat qui arrive et nous raconte son histoire. Et pour donner de temps en temps l'image qu'il y a un passé très, très fort, il est accompagné par une enfant, Baptiste.
Mmh. Alors comment sélectionner Baptiste pour cette pièce? C'était difficile?
Oh, c'était assez difficile. Il y a eu beaucoup d'enfants qu'on a vus avec Frédéric Muzzolini. On les a auditionnés parce que je pense que c'était bien qu'il y avait plusieurs points de vue. Et bien finalement, on a choisi Baptiste qui correspond très bien à la figure et même il ressemble assez à Yvan l'original.
C'est ça, parce que vous aviez des critères précis au niveau de votre sélection
Ben, les critères avec les enfants, c'est très difficile, parce qu'au même temps, ils sont assez petites, donc c'est leur force, leur grâce, mais souvent les règles du théâtre, ça veut dire la répétition, c'est quelque chose qu'ils arrivent pas à intégrer facilement, la répétition, parce que simplement ils s'ennuient et ils ont complètement raison. Et donc parfois, c'est un juste équilibre entre la capacité et la résistance à la répétition et ne pas perdre la fraîcheur, leurs caractéristiques, leur beauté.
Mmh, oui. Et le choix de Louis Bayler?
Oh, le choix de Louis, ça a été presque automatique dans ce sens-là, parce que il avait fallu voir le poser. Donc, je trouvais que ça devait être une personne qui avait du poids et une certaine âge, et que justement, il n'avait pas besoin, entre guillemets, de jouer, juste à être là et avoir son point de vue.
Oui, c'est un très 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 bon choix. Alors, il paraît qu'il y a aussi un chien sur scène. Il n'y a pas la meute, mais un chien.
Oui, on a fait des grandes auditions pour trouver les chiens. Et on est encore à la recherche. Donc, s'il y a des chiens qui nous écoutent...
Ah, vous n'avez pas encore trouvé le chien?
Oui, s'il y en a certains.
Si, on en a, mais on en voudrait des plus beaux encore.
Nos amis les chiens, à vos téléphones, il en faut un blanc. Il en faut un blanc.
Il y a plusieurs couleurs. Là, dans ces cas-là, on ne fait pas différence de couleurs ni de races.
Ce que je voulais dire par rapport à Louis Bayler, c'est que c'est très à l'image aussi du texte. On a un peu moins parlé de ça, parce que au-delà de la dimension sociale et politique de ce que raconte cette histoire, moi, ce qui m'a frappé quand Tony Cafiero a proposé le projet, c'est l'instinct de survie de cet enfant. L'envie de vivre et cet instinct de survie qui est quand même sans abri à Moscou, qui est quand même pas le pays le plus agréable pour y vivre quasiment nu en hiver, en mangeant peu ou prou, à travers cette épreuve. Il est extrêmement jeune et je trouve que je rejoins là le choix de l'acteur. Louis Bayler, il a quelque chose comme ça aussi. Non seulement il a du poids, mais on sent que alors l'acteur et l'homme aussi qu'il est est un combattant.
Oui. On écoute un second extrait, Yvan et les chiens.
Votan! Fataillez-vous, fataillez!
Pacha!
Fataillez-vous!
Viens, Pacha!
Puis d'un coup, je vois 5 militaires. Mais mes chiens sont là. Ils m'attrapent les jambes et les bras. Ils me jettent dans le van. Je crois qu'ils vont m'emmener. Velka vient dans le van. Elle devient folle. On dirait un loup. Ses yeux sont rouges. Et ses dents mordent les types à travers leurs vêtements, dans leur peau. Elle ne les laissera pas m'emmener. Elle est très, très en colère contre moi. Et ils me laissent partir. Elle les oblige à me laisser partir. Et je je sors du van. On court dans le vent. La neige est glissante. Et je glisse, mais je me rattrape. Et je cours, 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 et on court, on court, on court, on court, on court.
Sur le réseau FM+, un nouvel extrait de Yvan et les chiens, un texte de Atti Naylor, mis en scène par Tony Cafiero. Alors Tony, on entend qu'il y a, des voix off, hein, parce qu'en fait, donc il y a énormément de personnages, mais bon, il y en a, on va dire, un en la présence de Louis Baylor et l'enfant, mais voilà, c'est impossible, c'était impossible de représenter tous les personnages sur scène. Donc vos choix ont été plus sur des voix off.
Oui, j'ai trouvé quand même que c'était bien avoir des voix qui correspondaient aux Russes en même temps. Donc on a cherché des personnes russes, même dans la région, on les a trouvées, et on a pu reconstruire avec toute une captation qui a été faite à l'extérieur, les situations qui ont été dites dans le texte. Donc on les a reconstruit, on les a captés et on le remet dans les passages à l'intérieur du spectacle. Et je pense que c'est bien parce que ça donne l'idée de quelque chose qui parle du passé. En même temps, c'est un passé qui est loin, soit dans le temps, mais soit dans l'imaginaire. Il parle en russe, comme vous avez pu entendre. Et en même temps, la présence de Louis, ça nous rapporte directement au fait d'aujourd'hui, à la présence immédiate.
Oui, très très beau spectacle. Franchement, j'invite les auditeurs à le voir. Donc, c'est jeudi 29 en ouverture d'Imprudence à 20h30 au Théâtre Jacques Coeur. Alors, les informations pratiques, le Théâtre Jacques Coeur se situe 1050 avenue Léonard de Vinci à Lattes. Le téléphone 04 99 52 95 00, c'est bien ça Claudine ?
Tout à fait. Par le tram, voilà. Lattes Centre.
Ligne 3, arrêt au terminus Lattes. Et puis après une petite balade à pied de entre 5 et 8 minutes, et vous y êtes.
Et surtout après le spectacle, à la table avec Tony Cafiero, les chiens, l'enfant et son acteur, puisque
ah ouais.
C'est aussi la marque de fabrique d'Imprudence que le public dîne.
Et oui, donc nous y serons bien sûr. On termine avec un dernier extrait.
Je vois mes chiens. Tous mes chiens. Ils me chantent quelque chose. Bano, Strelka, Ruslan, Kugia et Belka. On est dans la ville noire et il fait très froid. Belka s'arrête. On s'arrête tous et on attend. Tout d'un coup, elle aboie et on court. On court dans la forêt. La forêt sauvage. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à maintenant. Et c'est maintenant. Courir et courir. Avec mes chiens, dans la neige blanche qui tombe.
Frédéric Mussolini, Claudine, Martel, Tony Cafiero, un grand, grand merci.
Merci à vous.
Rendez-vous au Théâtre Jacques Coeur pour Imprudence. Merci à Manu qui était à la technique et merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Scénorama sur le réseau FM+.